17h37, notre ami Richard Therrien est absent de la chronique aujourd'hui. Petit pépin de santé, rien de grave, je vous rassure. On lui souhaite un excellent rétablissement. Et pour le remplacer avec Thérèse Parisien, c'est Catherine Beauchamp. Salut vous deux.
Bonjour. Salut.
Donc, c'était les chefs hier.
Oui.
Et il a été question d'un plat que j'ai toujours détesté avec beaucoup de passion, au même titre que le boudin, au même titre que le foie de veau. Et je parle du pain de viande.
Ben, hier, effectivement, on a fait une surprise aux candidats, aux 5 candidats des chefs qui restent avant les quarts de finale. C'est-à-dire qu'on a invité un membre de leur famille, papa ou maman, et ils devaient honorer ce membre de la famille en faisant une recette qui allait chercher un souvenir d'enfance. Donc, bon, il y en a qui ont préparé des carrés d'agneau, carrés de porc, mais il y a Marie-Lou qui, elle, a décidé de faire un pain de viande. Et j'avoue que quand elle a dit ça au début, j'ai dit, mon Dieu. Ah oui, j'ai dit, ça va se faire éliminer. Ça a pas de... Tu sais, c'est sec, hein, des fois, du pain de viande. Puis, puis là, tu te dis, mon Dieu, je me souviens quand... Je pense que ma mère en a fait quelques fois, mais à peine. Moi, ça m'emballe pas. Et là, Thérèse, ben, je vais te laisser continuer. Raconte ce qu'il y avait
on
dans
ouvre
le
les
pain
lignes
de viande.
Pour ou contre le pain de viande.
Écoute, non, mais
appelez-nous au 7-9. Non, c'est pas vrai.
On a eu probablement la même réaction que tu as eu tantôt, tu sais, le pain de viande. Bon, moi, j'avais une mère qui faisait un bon pain de viande. Je vous dis ça comme ça en passant parce que je le sais. Richard Therrien, je sais pas si c'est son père ou sa mère, mais à chaque fois qu'il y en a un des deux qui annonçait, c'est son père, c'est ça.
C'est le seul plat qu'il faisait.
Écoute, c'est le seul plat qu'il faisait. Puis quand il annonçait ça fièrement à la famille, ce soir, j'ai fait un pain de viande, Richard s'écroulait. Il s'était immangeable. Alors, mais tout ça pour dire que Marie-Lou, elle, a fait un pain de viande et elle annonce à tout le monde, je le fais avec du fromage en grain. Elle avait demandé du fromage en grain. Et là, évidemment, t'as Jean-Luc Boulay, le chef, qui fait, ah, je déteste le fromage en grain. Je peux pas croire qu'elle va mettre ça là-dedans. Et là, écoute, elle a gagné avec ça. Et Catherine, je pense que tu as eu la
même. Avec du bacon. Il y avait du bacon.
Ah, ben s'il y avait du bacon.
Oui, mais et c'était servi, moi, c'est ce qui m'a le plus épaté, c'est que c'était servi vraiment avec un coup d'œil. Quand on parle d'un plat gastronomique, c'était vraiment très beau pour les yeux.
Ah,
ça
oui.
avait de l'air bon, mais c'est aussi que ça a fait de la très, très bonne télévision. Parce que le fait que ces candidats-là, qui sont, cela dit, confinés pendant la période de tournage, le fait de retrouver un parent, de retrouver une mère, un père qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on le sait, on vit tous dans cette situation-là présentement. Ouais. Je pense que ça a fait du bien à l'âme.
Écoute, c'était touchant. T'sais, à un moment donné, t'as la mère de Guillaume qui prend son fils par les joues et qui dit « Mon Dieu, tu dois donc être fatigué. » Guillaume dit « Ben non, maman, ben non. » Mais il y avait quelque chose de touchant. On était dans un moment qu'on ne peut même pas vivre aujourd'hui, en tout cas pas pour le moment.
Ben, on pourra jamais revoir ça, en tout cas pour un certain moment en tournage, parce qu'ils sont effectivement, malgré qu'il y ait une distanciation physique entre les candidats, là, mais de voir les étreintes comme ça, moi je trouve que c'est venu chercher notre cœur. Mais aussi, à la fin de l'émission, il y a Daniel Vézina qui a présenté, lui, sa recette familiale coup de cœur, et c'était un mac and cheese au homard. Et j'y pense encore aujourd'hui.
Tu mets l'eau à la bouche, là.
Hey, ça avait aucun bon sens, comment c'était cochon, ça avait de l'air bon. Et là, je pense juste à du homard depuis les dernières 24 heures. J'arrête pas de me dire, mon Dieu, je vais essayer de faire la recette, puis j'ai peur de la gâcher. Mais les chefs, c'est à suivre, parce que là, on va tomber dans les quarts de finale. Il n'y a pas eu d'élimination hier, parce qu'on était trop dans un épisode doudou, là. Mais après ça, quart de finale, puis là, on sent que le niveau vient de craquer, là.
Oh oui. Oh oui,
c'est une bonne édition des chefs, hein, cette année, je pense.
Une très bonne édition des chefs, puis ça nous fait... Écoute, on l'aime encore plus, parce que je ne sais pas pourquoi ça nous fait du bien. Je pense qu'on a besoin de ça. Et on a besoin de ça en ce temps de pandémie, parce qu'on se demande ce que la télévision va faire aussi avec la pandémie. Est-ce que la fiction va... Puis c'est une question qu'on s'est posée. Comment la télé va aborder, par exemple, l'après-COVID ou le cœur de la pandémie? Est-ce qu'on va être encore dedans? Quand les scénarios vont sortir, est-ce que... c'est quoi le scénario le plus plausible, en fait? T'sais? Est-ce qu'on va être au milieu, à la fin? Est-ce qu'on va avoir découvert un vaccin, un médicament? Donc, comment les auteurs... Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a deux camps.
Ah oui,
c'est quoi les camps?
Ah oui. Ben, moi, j'avais lu des articles déjà qui étaient sortis ici au Québec où les auteurs étaient catégoriques sur le fait qu'ils ne voulaient pas changer leur scénario ou leur climat de série pour la pandémie. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas intégrer la pandémie à aucune des émissions. Et il y a une grande tendance présentement aux États-Unis où certaines productions vont faire exactement le contraire, vont dire, écoutez, nous, on serait juste pas capable de présenter un monde qui est rendu anormal. Comme par exemple, il y a une série qui s'appelle Grow-ish aux États-Unis qui se déroule sur un campus universitaire. Ben, tu sais, présentement, on sait même pas si les étudiants vont être capables d'aller à l'école à l'automne, les universités, les cégeps. Alors, ils ont dit, ben, nous, on n'a pas le choix, il va falloir accuser la pandémie.
Et ce qui est intéressant.
C'est peut-être logique.
Donc, ils vont faire de la pandémie une sorte de trame narrative. Là.
Un enjeu, vraiment dans leur. Puis, le créateur de la sitcom Grown-ish, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit le dernier point de comparaison en termes d'impact sur les fictions à la télévision, ouais. C'était le 11 septembre.
Oui, mais le 11 septembre, c'était. On était quand même là dans le domaine du symbole.
Oui.
Là, c'est vrai que les acteurs et actrices pourront pas travailler, pourront pas se frencher là, tu sais.
Non.
Non, mais vas-y, c'est Thérèse.
Ça. Non, mais simplement pour dire que, par exemple, la grippe espagnole a eu très peu d'impact sur les émissions de télévision. Oui, on l'a vu dans une couple de séries après, là.
La grippe espagnole? D'époque.
Oui. Oui, oui. La grippe espagnole, à l'époque, écoute, il n'y a pas eu tant d'impact que ça. Là. On en a reparlé dans des
mais Thérèse, il n'y avait pas de télé à l'époque.
Non, je comprends. Mais ce que je te parle de, par exemple, dans les productions d'aujourd'hui. Les productions, il y a des productions historiques, là.
Oui.
Des productions historiques.
Tu veux dire, OK, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que la grippe espagnole de 18-19
a
très peu fait partie de l'imaginaire après ça, là, à la télé. OK, je comprends.
Puis on ne l'a pas traité tant que ça. Donc, elle a vraiment peu d'impact sur, même quand on parlait, par exemple, de choses qui se passaient dans la même année que la grippe espagnole a été déclenchée. Enfin, il y a plein de productions qui n'en font pas à vie, tu sais.
Il y a des séries comme 911, et il y a un spin-off qui s'appelle 911 Lone Star. Ça parle des urgences, des pompiers. Encore une fois, ils disent on n'a pas le choix d'accuser cette pandémie-là. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les gens n'auront pas envie de décrocher? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es en pandémie puis que tu regardes la télé, peut-être que tu n'as pas besoin qu'on te parle de pandémie.
Mais moi, j'imagine un district 31 où tout le monde porte un masque, là.
Ben, ça pourrait arriver, mais est-ce que ça va biaiser l'histoire? Est-ce qu'on va être obligé de toujours faire des flèches?
On s'est habitué à payer que ça depuis 2 mois.
Oui, mais Patrick, il y a quand même une bonne question. Mais il y a une bonne question qu'on peut se poser. Tu sais, qu'est-ce qu'on voudra entendre? Qu'est-ce qu'on voudra voir? Et qu'est-ce qu'on ne voudra pas voir et entendre? Parce que, cette période, les gens ont pas tellement envie, des fois, de se faire rappeler si le drame est un peu passé. C'est-à-dire, si on arrive de l'autre côté du drame. Je sais, par exemple, que les auteurs de cinquième rang, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, les comédiens de cinquième rang ont fait un genre de petit vidéo. Il y avait Marie-Luce qui était jouée par Maude Guérin, le personnage principal. À la fin avril, les comédiens ont fait un, puis ils se promenaient à Valmont, puis il disait, il faut se confiner, il faut faire attention. Puis il avait fait. Alors, je suis certaine que les auteurs de cinquième rang vont incorporer la COVID dans leur scénario. Par contre,
je m'en ai dit, si nous autres, on n'a pas le droit de s'embrasser, eux autres non plus, ils n'ont pas le droit de s'embrasser.
C'est ça, mais là-dessus, t'as raison. Et c'est intéressant parce que Ryan Murphy, qui a fait Hollywood, puis The Politician, puis des grosses séries, lui, là, il a zéro intention d'aller dans ce sens-là. Lui, il dit, moi, je veux vendre de l'espoir, de la romance et une forme d'échappatoire. Alors, j'irai pas dans ce sens-là dans mes séries, tu vois? Donc, il y a comme vraiment deux mouvements.
Ben, il gardera 2 mètres de distance. OK, merci, merci Thérèse et merci l'accro honoraire Catherine Beauchamp.
Un plaisir, merci.
OK, petite pause.